Alors, Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Eux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous.
Une carte, oui, s'il te plaît, si tu veux bien l'afficher. Alors d'abord, excusez-moi, d'où viens-tu, qui es-tu et que fais-tu?
Bon, alors je suis irlandais d'origine, donc je viens de près de Belfast. Et je suis là avec mon épouse Rachel et mes trois enfants. Julia qui a 7 ans, Anna qui a 6 ans et Abigail qui a 4 ans. Donc nous sommes en France depuis 2 ans et demi maintenant, donc depuis septembre 2006. Et je suis pasteur à l'église de Lagny, donc de l'autre côté de Paris, dans l'Est parisien. Donc si on peut... C'est pas très net, mais on voit quand même ici l'église de Lagny sur moi. Voilà. Donc, voilà.
Ok, merci. Alors, je sais que tu as des responsabilités aussi au niveau de l'association baptiste.
Tout à fait.
Des églises de langue française. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer en deux mots, finalement, une association, ça sert à quoi? Pourquoi une église? Quel est l'intérêt pour une église de faire partie d'une association?
Donc, je sais que ce n'est pas une question anodine, parce que vous allez justement débattre de cette question dans une semaine. Donc, je vous recommande très fortement de faire partie d'une association, et notamment l'association que je représente ici ce matin. Parce qu'effectivement, c'est le dimanche de l'association baptiste de langue française. Donc, une association qui regroupe des églises baptistes en Belgique, en Suisse et en France. Une cinquantaine, plus ou moins, d'églises qui sont affichées là, sur la carte, dont une vingtaine en région parisienne. Et effectivement, je suis président de l'association La Brif, qui regroupe ces 20 églises en région parisienne. Quel est l'avantage? Déjà, je pense que c'est une richesse d'avoir des frères et sœurs avec qui on partage les mêmes convictions, avec qui on partage les mêmes missions, les mêmes buts, les mêmes objectifs, parce qu'on peut travailler ensemble. Et justement, en région parisienne, on fait des choses ensemble, au niveau des églises locales et aussi au niveau des pasteurs. Un exemple, le pique-nique en mai, le pique-nique de Pentecôte, c'est quelque chose qui regroupe et qui permet de se connaître mieux. Mais au-delà de cela, c'est une ressource pour les pasteurs. Je dirais que ça, c'est un élément clé de la chose. Les pasteurs trouvent au sein de l'association de la solidarité, de l'amitié, de la prière, un soutien vraiment incontournable dans le ministère. Et je sais que Trevor, quand il vient dans nos pastorales, il trouve vraiment son compte là. Il trouve un ressourcement spirituel important. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Bon, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je veux garder du temps pour mon message. Alors.
Voilà. Alors, on aura l'occasion de partager quelques moments après ce culte. Mais néanmoins, quand même, je sais que tu es un grand ami de Michael.
C'est vrai.
Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais, en deux mots, nous dire où l'as-tu rencontré la première fois et peut-être nous glisser une petite anecdote?
Ah, voilà. Bah, j'ai réfléchi à ça parce qu'il m'a prévenu quand j'arrivais. Donc, on s'est rencontrés en septembre 2006, effectivement. Et je voulais dire quelque chose qui vous ferait rire au sujet de Michael. Et puis je me suis dit, ce ne serait pas juste. Ce serait ingrat parce que quand je pense à ce que Michael a fait pour moi, lui et sa femme, et sa famille au sens large, on n'a reçu que de la gentillesse, que de la bonté, que de la générosité de sa part. Et donc je ne peux pas, en tant qu'ami de Michael, me tenir ici pour me moquer de lui. En privé, je le fais volontiers, il peut le confirmer. Mais ici, c'est que des remerciements et des mots gentils que je voudrais vous laisser. Michael a été vraiment gentil avec notre famille, il a tout fait pour nous. Je pourrais donner une liste, mais ça finirait pas. Et encore une fois, j'aurais pas de temps pour mon message.
Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole.
Merci. Donc, j'aurais besoin de la télécommande pour faire avancer les diapos. Merci. J'attends. Voilà. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, peut-être, non ? Comme ça ?
Non. C'est ça, celui-là.
Ah, très, très bien. Voilà. Oh oui, je vois qu'il y a des gens qui connaissent Dumas, s'ils aiment ou pas, je ne sais pas, mais James Bond. Alors, James Bond, ce n'est pas le dernier film, mais c'est l'avant-dernier, Casino Royale. Je n'approuve pas tout ce qu'il fait, ni tout son attitude, mais je trouve qu'il y a un exemple ici qui est intéressant. Pour sauver le monde, il s'agit toujours de sauver le monde pour James Bond, il a dû jouer aux cartes. À un moment donné, à un moment clé du film, James Bond prend tout ce qu'il a et il mise tout. Il met tout. Et c'est ça qui permet finalement de gagner le jeu et puis de sauver le monde. On va revenir à cela après. Mais je ne voulais pas tout simplement faire référence à James Bond, c'est une référence culturelle. Bon, voilà. Mais aussi faire référence à cet homme-là. Donc, ce n'est pas souvent qu'on voit James Bond suivi de Jean Calvin. C'est vrai, je l'avoue. Mais Calvin, quand il voulait définir la foi, et c'est l'année où on célèbre les 500 ans de la naissance de Calvin. Vous voyez ça, la date de naissance, 1509. Il a dit la chose suivante, et c'est très fort, et c'est très juste. Nous avons une entière définition de la foi. Si nous déterminons, dit-il, que c'est une ferme et certaine connaissance de la bonne volonté de Dieu envers nous, laquelle, étant fondée sur la promesse gratuite donnée en Jésus-Christ, est révélée à notre entendement et scellée en notre cœur par le Saint-Esprit. Voilà ce que la foi est, selon Jean Calvin. Et je pense que si on retient cette définition de la foi, ça va nous servir dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour comprendre ce passage que nous venons de lire ensemble en Hébreux chapitre 11. Parce que la foi, si on en considère bien, si on l'a, la foi, la réelle, celle que décrit Jean Calvin, on peut tout affronter dans la vie. Si on ne l'a pas, cette foi-là, on ne pourra pas affronter ce que la vie nous réserve. Alors on va se poser la question, qu'est-ce que c'est cette foi? À quoi ça ressemble? Et puis comment la procurer, cette foi? Nous allons voir lors de ce message que selon ce passage, la foi réelle, c'est la foi qui vainc le monde. C'est aussi la foi qui perd le monde. C'est une foi dont le monde n'est pas digne. C'est une foi qui cherche un meilleur monde. Et cette foi-là mise tout et ne retient rien en réserve. Attends, je veux aller en arrière maintenant. Je peux aller en arrière ? Voilà. Donc, tu reviens merci beaucoup. Déjà, pour comprendre ce passage que nous venons de lire, il faut remarquer une chose essentielle. C'est qu'au milieu du verset 35, il y a une coupure très net. Dans ce passage, nous n'avons pas une seule liste. Nous avons deux listes. Vous voyez dans le milieu du verset 35, d'autres. Alors, une première liste où l'auteur décrit des personnes qu'il va décrire dans le détail. Et puis, il dit d'autres. Et si on ne se rend pas compte de cela, de la coupure au milieu du verset 35, on est un peu perdu par rapport à ce passage et par rapport à la définition et la compréhension de la foi. Donc il y a deux listes. Et déjà dans la liste, la première liste, on voit la foi qui vainc le monde, la foi triomphale, la foi qui réussit tout, la foi qui reçoit tout de Dieu. C'est par la foi, dit notre auteur, que Daniel ferme la gueule des lions. C'est un miracle, une intervention divine. Il est sauvé. La puissance du feu, qu'on voit aussi dans ces versets, le verset 34, c'est les trois amis de Daniel qui sont jetés donc dans la fournaise. La situation semble être perdue. C'est la mort à coup sûr. Mais ils sont sauvés de la mort certaine. Ils échappent indemnes de cette situation-là. Calvin, je viens de le citer, je le cite encore, Calvin dit par rapport à ce verset, ils ont traversé allègrement la fournaise ardente, ni plus ni moins que s'ils eussent été en un pré couvert de rosée. Voilà une foi qui vainc le monde, une foi qui réussit, une foi qui a l'intervention miraculeuse que tout le monde cherche finalement. Et si la foi était la cause de tout cela, il faut conclure qu'il n'y a point d'autre moyen que la foi pour donner lieu à la bonté de Dieu et pour qu'elle se manifeste envers nous. Mais ce n'est pas tout. Les femmes, là, recouvrent des morts. Et là, il s'agit des deux femmes dans l'Ancien Testament, la veuve de Zarapath, ressuscitée par Élie, et la femme Shunamite, dont le fils est ressuscité par Élisée. Et voilà des histoires de la foi comme nous les aimons. Elles résonnent avec nous. Elles devraient. Elles nous encouragent. Elles devraient nous encourager. Elles nous donnent envie. Et c'est bien. C'est juste. Nous devons réagir quand nous lisons ces histoires miraculeuses dans la Bible, comme cela. Parce que là, on a une foi qui vainc le monde. Une foi triomphale qui reçoit l'intervention divine, miraculeuse de Dieu. C'est la foi, peut-être dans votre vie, qui vainc la maladie, qui redonne la santé, qui reçoit les miracles, l'intervention divine dans notre vie de tous les jours. Nous sommes émerveillés, nous aimons ces histoires de la foi qui vainc le monde. Et nous faisons bien de les aimer, et de les célébrer, de les fêter. Mais si notre conception de la foi s'arrête là, en plein milieu du verset 35, dans l'idée qu'il faut tout simplement avoir la foi et en triomphera de toutes les circonstances, de toutes les situations de la vie, nous sommes voués à l'échec. Nous sommes perdus. Si nous pensons que quoi qu'il arrive, si nous prions suffisamment, nous serons toujours sauvés, nous n'aurons jamais à faire face à la mort, à la souffrance, si c'est là notre conception seule de la foi, nous sommes perdus. Nous sommes voués à l'échec, parce qu'il y a deux listes. La première liste, où nous voyons les personnes de la foi qui vainc le monde. La deuxième liste, où c'est le contraire. Pour un exemple très récent de cette deuxième foi, la foi qui perd le monde, nous pensons à Johnny. Tout le monde le connaît, je pense, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui ne connaissent pas son histoire. Bon, voilà, j'explique brièvement. Elle est bien connue dans le monde anglophone et je pense aussi dans le monde francophone. Mais jeune fille chrétienne, elle plonge dans des eaux peu profondes, à l'âge de 18 ans plus ou moins, et elle est paralysée. Donc elle est maintenant dans un fauteuil roulant et elle l'a été depuis l'âge de 18 ans. Et les amis lui ont dit, si tu as vraiment la foi, si tu pries vraiment, avec foi, tu seras guéri. Et sinon, c'est ta foi qui n'est pas à la hauteur. C'est la faute à ta foi, à ta petite foi, à ton manque de foi. Et heureusement pour nous, comme pour Johnny, notre passage ne s'arrête pas avec le début du verset 35. Il y a dans cette liste des héros de la foi, des exemples pour les chrétiens qui ne reçoivent pas le miracle qui vient de Dieu. Il y a d'autres qui avaient eux aussi la foi, d'autres qui avaient mis eux aussi leur confiance en Dieu. Mais leur histoire se termine autrement, et pas par un miracle divin. J'en ai dit la chose suivante par rapport à sa maladie, et par rapport aux gens qui disent « il faut tout simplement avoir la foi pour être guéri ». Je vois, et là rejoint Calvin, la foi tout bonnement comme un instrument par lequel s'exprime la grâce divine. D'autres la voient peut-être davantage comme un gourdin que nous brandissons au-dessus de la tête de Dieu, ou bien comme les ficelles à tirer si nous voulons que voir Dieu bouger. À mon avis, ce n'est pas de la foi, mais de la présomption. Cela rabaisse presque Dieu au rang d'un pantin. Alors la première question à se poser ce matin, c'est où est notre conception de la foi ? À quoi se ressemble-t-elle ? Est-ce que nous avons une vision de la foi qui s'arrête au milieu du verset 35, où la foi va triompher de tout, où Dieu veut à tout coup intervenir par un miracle? Ou est-ce que nous avons la maturité d'accepter que la liste, dans la deuxième partie de notre passage, est tout aussi vraie? Et ça parle tout aussi puissamment de la foi réelle en Dieu. Parce qu'il y a deux listes. Il y a, oui, la foi qui vainc le monde. Et puis, il y a aussi la foi qui perd le monde, qui perd tout, qui accepte de tout perdre, sans pour autant renier la foi en Dieu. Relisons ces versets. C'est étonnant. D'autres furent livrés au tourment. Verset 35. Et n'acceptèrent point de la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Il y a deux listes. Il y a des exemples de ces deux listes assez frappants dans la Bible. Par exemple, Pierre et Jean-Baptiste, tous les deux emprisonnés. Tous les deux des hommes de foi. Tous les deux avec des disciples qui prient pour leur délivrance. Pierre, lui, est délivré de façon miraculeuse. Jean-Baptiste, lui, est décapité. La foi, pareil dans les deux cas. La foi des disciples, pareil dans les deux cas. Le résultat, tellement différent. Ou bien David et Jonathan. David se trouve dans la première liste, celui qui vainc par la foi. Jonathan dans la deuxième. Celui qui accepte de perdre tout, sans renier pour autant sa foi. Et nous, nous désirons pour nous-mêmes, pour nos proches, nous désirons nous trouver dans la première liste, en recevant de Dieu que des miracles et des bonnes choses, où tout finit bien. Mais la foi, selon l'auteur aux Hébreux, la foi peut aussi avoir comme résultat la persécution, la souffrance, parce qu'on tient ferme et on n'accepte pas de sortir de la souffrance en reniant Dieu. Ça aussi s'appelle la foi. Ça aussi, c'est approuvé par Dieu. Et l'auteur, il écrit à des gens justement qui souffraient et qui voulaient, à coup sûr, sortir de leur souffrance. Il les écrit pour les rappeler qu'on ne sort pas forcément des souffrances. On ne sort pas forcément, miraculeusement, on n'est pas forcément délivré. Et des fois, la foi doit tout simplement persévérer. Un exemple très frappant qui nous permet de comprendre un peu plus par rapport à cela se trouve dans un livre qui n'est pas biblique, mais auquel l'auteur fait référence. Dans le verset 35. Parce que justement, il venait de parler des femmes qui ont reçu leur mort par la résurrection, les deux femmes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et puis, il dit d'autres subir des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison, et n'acceptèrent point de délivrance. Et il fait référence sûrement à ce passage dans 2 Maccabées. Et donc je lis tout simplement le passage pour vous montrer à quoi il fait référence. Et il s'agit d'un roi qui persécute le peuple juif entre le temps des Deux Testaments, donc entre 400 ans avant Jésus-Christ et sa venue. Et il persécutait fortement le peuple juif de l'époque en les forçant à ne pas obéir à la loi mosaïque. Lorsque le premier eut quitté la ville de cette manière, donc torturé, on amena le second pour le supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait « Veux-tu manger du porc avant que ton corps soit torturé, membre par membre ?» Il répondit dans la langue de ses pères « Non. » C'est pourquoi lui aussi fut à son tour soumis au tourment. Au moment de rendre le dernier soupir, « Scélérat que tu es, dit-il, tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. » Après lui en châtia le troisième, il présenta aussitôt sa langue comme on lui le demandait et tendit ses mains avec intrépidité. Il déclara courageusement « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise et c'est de lui que j'espère les recouvrer de nouveau. » Une foi qui accepte de tout perdre pour Dieu. C'est la foi de la deuxième liste. Mais c'est une foi aussi dont le monde n'est pas digne. C'est dans le verset 38. Le monde n'est pas digne de cette foi-là. Parce que le monde, finalement, ce n'est pas ce que ces gens-là recherchaient. Ils ne recherchaient pas ce que ce monde peut offrir, mais plutôt un monde meilleur. Un monde meilleur. Parce que dans ce passage auquel l'auteur des Hébreux fait référence, la foi vise plus loin. Et la foi puise plus profondément qu'une foi qui espère tout simplement recevoir des choses de ce monde présent. Et cela, nous le trouvons aussi dans le verset 40 de notre passage. Dans le verset 40. Ils n'ont pas obtenu dans ce monde ce qui était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que cela veut dire, le verset 40 ? Parvenir à la perfection ensemble avec nous. C'était ça qu'espéraient ces hommes-là de la deuxième fois, liste, qui ont tout perdu à cause de leur foi. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils espéraient ? L'horizon de leur foi, ce n'était pas demain. L'horizon de leur foi, ce n'était pas la semaine prochaine, ni les années à venir dans ce monde-ci. Non, l'horizon de leur foi visait aussi lointain que le nouveau monde, la nouvelle création, la résurrection finale et le renouvellement de toutes choses par Jésus lors de sa deuxième venue. Et leur foi puisait ses ressources, non pas dans les projets que des fois on se fait pour Dieu par rapport à notre vie. Non, leur foi puisait leurs ressources en Dieu lui-même. Vous voyez la différence ? La foi qui accepte de tout perdre. La foi dont le monde n'est pas digne. Cette foi-là puise dans les fondations de Dieu lui-même. Cette foi-là vise la résurrection finale. Cette foi-là est réellement foi. Il est juste, il est sain de se poser la question par rapport à notre foi. Quelle est notre foi ? Quel est l'objectif de notre foi ? Est-ce que dans notre foi en Dieu, nous espérons tout simplement réussir cette vie-ci, ce monde-ci ? Auquel cas, nous voulons bien vivre dans la première liste, mais en aucun cas accepterions-nous de vivre dans la deuxième liste. En aucun cas accepterions-nous d'être persécutés, de souffrir pour Jésus. Mais si, réellement, notre foi est en Dieu, et pas dans les projets qu'on aimerait bien qu'il ait pour nous, si notre foi est en Dieu, et si notre foi vise la résurrection finale et le renouvellement de toutes choses, à ce moment-là, nous pouvons accepter de souffrir, d'être persécutés, de tout perdre dans cette vie et dans ce monde, pour lui. Et voilà le choix que l'auteur aux Hébreux nous livre. Est-ce que nous acceptons cette deuxième liste ? C'est frappant de regarder, encore une fois, les choses auxquelles l'auteur fait référence. Tournez avec moi au Daniel, chapitre 3, versets 18 et 19. Parce que là encore, nous avons un exemple frappant de la mise en action de cette foi-là, qui accepte de tout perdre. Donc c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont sur le point d'être jetés dans la fournaise. On va commencer au verset 17. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont la foi que Dieu peut les sauver. Ils pensent qu'il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, disent-ils, nous, on va rester fidèles à Dieu. Nous acceptons de souffrir, d'être persécutés pour notre Dieu, parce que nous considérons qu'un monde meilleur nous attend. Notre Dieu peut, nous le croyons fort, intervenir miraculeusement dans notre vie. Mais sinon, s'il ne le fait pas, s'il ne nous délivre pas de nos souffrances et de nos difficultés, quoi qu'il arrive, nous ne reculerons pas, nous ne céderons pas, parce que notre foi est en Dieu. Et vise la résurrection finale. Car si nous avons un programme pour Dieu, et le monde dans lequel nous vivons ne s'y conforme pas, nous sommes voués à l'échec. Nous allons placer notre confiance en notre idée de ce que Dieu devrait faire, à notre avis, et si par malheur Dieu ne le fait pas, s'il a quelque chose d'autre pour nous, nous sommes destinés à l'échec. Alors, est-ce que notre foi est en Dieu réellement ? On peut se poser des questions pour savoir. Est-ce que ce qui compte le plus pour moi, c'est un projet de mariage, un projet d'enfant, un projet de carrière, un projet de maison ? Et si je ne l'ai pas, est-ce que je vais être en colère avec Dieu ? Est-ce que je vais accepter de sa main ce qu'il nous donne ? Ou est-ce que je vais mettre quelque chose au-dessus de cela ? Non, il faut bâtir sa foi sur Dieu lui-même. Il faut viser dans sa foi aussi loin que possible jusqu'à la résurrection finale. On a dit en début de ce message qu'on allait aussi se poser la question de comment procurer cette foi-là, cette foi qui accepte de tout perdre, cette foi dont le monde n'est pas digne, cette foi
qui cherchent un meilleur monde. Mais comment avoir cette foi-là? Nous n'avons pas le temps de tout démontrer, mais dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons à maintes reprises que la façon dont il convient d'avoir cette foi-là, c'est en fixant les yeux sur Jésus. C'est en fixant les yeux sur Jésus, le vrai héros de la foi. Le vrai héros de la foi qui, lui aussi, fait partie de la deuxième liste. C'est un choc. Mais quand on voit dans le chapitre 12, l'auteur aux Hébreux, il continue sa liste. Et c'est la deuxième liste. Et Jésus en fait partie. Jésus, lui, accepte tout perdre, lui, parce qu'il croit que Dieu va le ressusciter. Et en fixant les yeux sur Jésus, en prenant Jésus comme source et exemple de notre foi, ça nous permet, nous aussi, d'avoir cette foi-là, de tout miser sur Dieu en vue de la résurrection, de tout miser sur lui dans les buts que je me fixe, de tout miser sur lui dans les attitudes que je développe, de tout miser sur lui dans les choses que je dis, de tout miser sur lui dans toutes les choses que je fais, de tout miser sur lui dans mon attitude à l'argent, de tout miser sur lui par rapport à ma famille, par rapport au boulot, tout miser sur Dieu. Et je pense que c'est très pratique cela. Pensant aux péchés habituels que vous avez, aux attitudes et aux comportements habituels, si réagir comme Dieu le veut est moins important pour nous que réagir comme moi je veux, donc peu importe la situation, cela montre que nous n'acceptons pas de miser sur Dieu dans cette situation-là. Peut-être une petite escroquerie au boulot ou par rapport à l'argent. Peut-être un petit mensonge ici ou là. Peut-être une attitude colérique vis-à-vis de certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'on pêche de cette manière dans ces situations-là? Parce que finalement, on n'accepte pas de souffrir pour Dieu en lui obéissant. On n'accepte pas de perdre face par rapport au monde. On n'accepte pas de ne pas avoir tous les avantages qu'on veut. Tout miser dans tout ce que nous faisons en Dieu nous permet de lui obéir, même quand nous n'en avons pas envie. Tout miser pour ressembler à ceux qui se trouvent dans cette liste. Que dirais-je encore, dit l'auteur aux Hébreux. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Ce sont des héros de la foi, certes. Des héros imparfaits, se trompant parfois gravement, mais des héros néanmoins. Mais voici le point central de ce passage. La liste est inachevée. S'il dans cette liste est de cette façon-là, c'est parce qu'il manque des noms encore. Il manque des noms. Il manque mon nom dans cette liste. Il manque votre nom dans cette liste. Il manque tous les noms de tous les gens, de tous les temps, qui par la foi vont tout miser sur leur Dieu et sur la résurrection finale. Le nom de tous les lecteurs de cet épître, qui est inspiré par la foi de Jésus, par sa mort et par sa résurrection, veulent courir après lui. Que dirais-je encore? Dit l'auteur. Le temps me manquerait si je voulais vous raconter de Michael, de François ou de Keith. Le temps manquerait de parler de tous les chrétiens qui vont poursuivre cette foi et ce Dieu et cette résurrection et ce monde meilleur qui nous attend. James Bond, lui, dans le film. Il a tout misé pour sauver le monde. C'est de l'imaginaire. Ça compte pas pour beaucoup. Mais nous, nous avons réellement un pari à faire. Est-ce que nous allons tout miser sur Dieu par la foi? Ou est-ce que nous allons retenir si peu que ce soit parce que nous ne faisons pas vraiment confiance à lui? Le choix est là, devant nous. Acceptons-nous de vivre cette foi pleinement. Et comme cela, acceptons-nous de prendre de la main de Dieu ce qu'il nous donne. Il y a deux listes. Dieu nous invite à la foi et à l'obéissance, qui nous donne la grâce de vivre pour lui en fixant les yeux sur Jésus, l'auteur de notre foi. Prions Dieu ensemble. Seigneur, je te remercie déjà pour toutes les fois dans ma vie et dans la vie des gens ici présents où tu t'es manifesté par ta grâce, par des interventions miraculeuses, par ta présence et par ta façon d'arranger les choses. Seigneur, nous sommes tous au bénéfice de cela. Mais Seigneur, je te prie de me donner et de nous donner la force aussi de faire partie de cette deuxième liste, d'avoir la foi en dépit de tout, dans toutes les circonstances, et de refuser la délivrance qui viendrait d'un reniement de toi. Seigneur, aide-nous, chacun de nous, d'avoir cette foi-là, dont le monde n'est pas digne, qui recherche un meilleur monde. Aide-nous à tout miser sur toi dans toutes les circonstances de notre vie. Seigneur, je te prie de réconforter tous ceux et celles qui ont besoin de savoir qu'eux aussi, ils peuvent faire partie de cette liste des héros de la foi. Je te prie pour cette nouvelle Église, que tu la bénisses pleinement de ta présence. Et que tu lui permets aussi de grandir en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, merci Philippe pour...